Je suis à Carouge, dans une petite rue du Vieux Carouge, rue de la Filature, à la Maison des Artisans. J'ai appris ça avec Douglas Beer, en français Douglas Beer, j'ai bien dit. Hein. Bonjour.
Bonjour.
Et dans cette Maison des Artisans, maintenant, en fait, vous m'avez communiqué qu'il n'y a plus que deux artisans, et surtout, en fait, des cinéastes, des artistes.
Des graphistes.
Vous avez un bureau ici magnifique, dans cette demeure splendide. On vous retrouve pour votre premier long métrage, L'Instant Infini. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre... J'ai lu les notes d'intention, bien sûr, dans le communiqué de presse. Je suis restée un petit peu interloquée parce que vous vouliez faire une sorte de panel des femmes d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire exactement la motivation, peut-être ce qu'il y avait à l'origine de ce projet?
Bon, à l'origine du projet, c'est le manque de moyens, je dirais, qui a déterminé un peu les choses. Parce que j'avais travaillé sur un autre projet qui ne s'est pas fait. Et là, j'ai voulu... faire un film qui se passe en un seul espace, pratiquement. Mm-hmm. Une ferme, c'est mm-hmm. huit clos, pratiquement.
Mm-hmm. Oui, il y a un peu de nature autour, quand même.
Il y a un peu de nature autour, absolument. Mais voilà, surtout dans la ferme, ça se passe. Avec peu de personnages, deux ou trois. Donc, l'histoire avait intérêt à être forte. Avec si peu de personnages, peu de lieux. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un? Mm-hmm. Et je pense que le pire, c'est de perdre un enfant. Mm-hmm. Et ce qu'il y a de pire encore, c'est de se sentir coupable de la perte de cet enfant. Donc ça, c'était un peu les prémices de départ. Et perdre l'enfant, alors qui le perd, la mère, je pense que la mère est encore plus proche. C'est devenu un personnage féminin. Donc mon personnage principal est féminin. Et puis, en brodant autour de cette idée, j'en suis venu à vouloir parler de sexualité, ça me paraissait être une façon d'aborder la question de la représentation de la femme aujourd'hui. Et je pense que, en tant qu'homme, le regard un peu extérieur, que les femmes, je ne sais pas comment elles font vraiment, parce qu'elles doivent vivre, j'ai l'impression, toutes sortes d'identités possibles, toutes sortes d'images possibles. Et c'est un peu une fable, mon histoire, où une femme traverse ces différentes images, donc celle de la femme, de l'amie, de la femme, de la compagne,
celle de la
mère, pardon,
délaissée
dans ce cas-là, oui, de la mère, de la prostituée, de la maîtresse, vous voyez, tous ces rôles que les femmes auxquels on demande aux femmes de jouer aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait ça? Je n'ai pas de réponse vraiment, mais j'avais envie avec ce film d'aborder ces questions-là.
Alors justement, ces questions, on va quand même dire aux auditeurs, il s'agit de Marie et Léonard, un couple qu'on retrouve, en fait, on les voit arriver dans la campagne, après on identifie qu'ils sont proches de Genève parce qu'on voit le Salève au loin, identifiable évidemment, et symbolique. Et au départ, on les voit, bon, la voiture est en panne, on les voit marcher dans cette campagne, et après, simplement, on les retrouve dans cette sorte de huis clos, où là, les choses vont s'exacerber parce qu'on comprend petit à petit ce qu'il y a en amont, ce qui n'est pas à l'écran. Et on comprend que Léonard délaisse sa femme, en fait. Il n'a plus de désir pour elle.
Absolument. C'est-à-dire qu'il vit différemment le deuil qu'elle.
Ce qui est souvent le cas dans les couples qui perdent un enfant.
C'est vrai. Oui, ça, c'est un peu les études que j'ai faites. Sur le sujet, c'est que comment est-ce qu'un couple vit et souvent un couple se sépare.
Et quand il tient, ils ont vraiment des cheminements très différents.
Oui, absolument. Et dans son cas, lui, il devient froid, distant. Elle a l'impression de le perdre.
Et son prétexte, c'est s'investir à fond dans la recherche d'un travail.
Exactement, oui. Et ils sont là de la région genevoise, du côté français. C'est un couple de Français, ils cherchent du travail en Suisse. Ça, c'est leur but. Mais le but réel, en tout cas d'elle, c'est de retrouver le lien qu'elle a perdu avec son mari. Et lui, il lui fait comprendre qu'elle est coupable, d'une certaine façon. Ce qu'il lui demande de faire dans cette histoire est assez abominable. Il va lui demander de s'exhiber sur Internet.
Pour être rémunéré aussi.
Pour être rémunéré, pour avoir de l'argent, parce qu'ils sont dans la dèche financièrement. C'est aussi une façon de la punir. Il fait comprendre, tu es coupable.
Et il entretient ce sentiment de culpabilité.
Oui, on le perçoit par des petites touches, parce qu'au début de l'histoire, c'est même pas dit, cette perte de l'enfant. On apprend assez
progressivement.
Tard. Progressivement. Et on sent une tension dans ce couple, on a des indices, Et puis lui il perd pas une occasion pour un peu remettre en place sa femme. C'est assez cruel.
On ne sait pas très bien s'il a encore des sentiments pour elle ou pas.
Oui, alors on peut imaginer qu'il n'en a plus.
Alors qu'elle s'y.
Alors qu'elle, bien sûr, elle, c'est son but dans toute l'histoire, c'est de retrouver cet homme qu'elle a perdu. Elle a déjà perdu à l'enfant, c'est déjà terrible. Elle n'arrive pas à faire le deuil, peut-être aussi parce qu'elle n'est pas aidée dans son deuil. Elle a l'impression de perdre un second amour dans sa vie.
Et puis elle est stigmatisée, justement, on comprend qu'il veut lui faire porter la coupe.
Oui, exactement.
Pouvez-vous nous parler du choix des acteurs? Donc, il y a les deux comédiens principaux qui interprètent le couple,
Oui.
puis aussi Maria Métral.
Maria Métra, oui.
Enfin, et aussi le tenancier, enfin, le propriétaire de la maison.
Propriétaire de la maison, oui. Sur les personnages principaux. L'actrice, d'abord, j'ai cherché ici, à Genève, en Suisse, il y a de très bons acteurs. Mais je trouvais. Mais physiquement, j'avais une idée aussi. Pour moi, elle devait être assez jolie, mais pas trop, disons. Et puis, il y avait un choix d'actrice ici, mais qui n'était pas assez grand. Donc, j'ai décidé de faire un deuxième casting à Paris, où là, il y a beaucoup de. Il y a un choix assez grand, assez important. Hein. Et j'ai envoyé mon scénario à une quarantaine, en tout, à peu près une quarantaine d'actrices, en Suisse et en France. Donc, les deux castings, j'ai fait des essais. Pour moi, c'est très important de faire, hein, même avec des acteurs qu'on peut voir au cinéma, même s'ils sont connus, moi, ça m'est égal, j'ai envie de faire des essais. C'est là qu'on découvre parfois des petites surprises, des gens qui sont un peu assez connus et puis qui n'arrivent pas à jouer de leurs sentiments,
Incarner.
de leurs émotions. Ça c'est, parfois, ça arrive. C'est arrivé pour l'autre rôle où j'ai choisi des acteurs qui n'avaient enfin, j'ai pas choisi des acteurs qui étaient assez connus, mais. J'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à jouer de ses émotions. Et dans le cas de Jennifer Riouet, qui est pour moi une splendide actrice, elle est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de la trouver. Alors que sur sa bande démo qu'elle avait mise sur Internet, je n'étais pas très convaincu. Ce n'était pas celle que je m'étais dit tout de suite, c'est elle. Non, pas du tout, au contraire. Par contre, il y en avait une autre que je trouvais plus intéressante. Et puis au moment du casting, qu'on a fait dans des conditions magnifiques, grâce à l'hôtel Poussepain à Paris, le centre suisse, qui ont un petit théâtre, les acteurs étaient ravis parce que souvent les castings se passent derrière dans un couloir,
Un rideau.
derrière un rideau d'une maison de production qui n'a rien de théâtral. Là, c'était vraiment un théâtre avec des éclairages, voilà, c'était parfait. Et j'ai demandé à cette. J'ai mis ensemble un acteur, c'était Damien. Lui, je savais déjà que ce serait lui, depuis très vite. Damien Dorsin, je l'ai rencontré par hasard en Suisse pendant un séminaire que j'avais suivi de direction d'acteurs, qui était organisé par Focal. Et puis, il m'avait paru bien. Et puis, voilà. Donc, lui, c'était. Alors, je lui demandais à lui de jouer avec une actrice, celle que je pensais prendre. Et voilà que cette actrice a refusé de faire une improvisation. Ben, c'était bizarre. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup embêté parce que je me suis dit, mais finalement, parce qu'au final, j'étais presque au final, il n'y avait plus tellement de choix. Je me suis dit, ce serait elle. Ben non, ça pouvait plus être elle. Et puis je fais l'essai suivant avec Jennifer. Et elle a refusé de faire autre chose. Mais. Parce que je lui demandais de simuler un orgasme. Alors ça, presque tout le monde était d'accord, mais pas Jennifer.
Mais pas tout le monde est Meg Ryan, hein?
Absolument, absolument. Elle m'a dit, oh, mais ça je te fais, non, ça je fais pas. Mais l'improvisation, elle l'a faite, et puis c'était très touchant. Ça, c'est à ce moment-là que j'ai su que ce serait elle.
Et pour donc Maria Métral et donc le propriétaire
Ah,
de la maison.
Maria Métral, j'ai pensé à elle tout de
Cam Girl.
suite. Cool Cam.
Oui,
Cool
Cool
Cam.
Cam.
Elle, j'ai pensé à elle assez rapidement parce que je vais déjà penser à elle pour un rôle d'un court-métrage il y a des années. C'est pas fait. Donc, je vais toujours souhaiter travailler avec elle parce que je la trouve, je sais pas, elle a une sorte d'énergie comme
Une
ça.
aura.
Une aura. Elle a une aura pour moi, oui. Elle est formidable. Je voulais vraiment travailler avec elle. Mais je pensais que peu d'espoir de la convaincre de jouer un rôle quand même un peu délicat. Et elle a, parce qu'il y a quand même de la sexualité hein, qui est impliquée. Et elle était ravie, elle adorait le rôle. Elle a tout de suite dit oui, elle était enthousiaste. Et elle a mis une super ambiance quand elle était là. C'était vraiment très agréable. Et Mathieu Chardel, lui, je ne le connaissais pas du tout. Et vraiment, j'ai eu là aussi beaucoup de chance parce que je pensais à des acteurs comiques pour un rôle un peu tragique. Hein, parce qu'on découvre ce personnage de propriétaire, il a un passé un peu spécial. C'est comique, je trouvais assez bien de ne pas demander à des gens qui ont un air un peu patibulaire pour jouer un rôle un peu, qui annoncerait d'avance ce qui se passe finalement au final. Mais ces acteurs comiques assez connus, ben voilà, ils n'arrivaient pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'arrivaient pas vraiment à donner l'impression, à jouer de leurs émotions, ça ne marchait pas. Tandis que Mathieu, lui, formidable. C'est un grand acteur. C'est tous les quatre que j'ai choisis, là, c'est tous des grands acteurs, je trouve, parce qu'ils réussissent à jouer une palette d'émotions. Parce que ce film est fait d'émotions, c'est que des émotions. Moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est de vivre des émotions. J'essaie de retraduire ça. Alors, ça peut être différentes émotions. Hein. Quand on voit un James Bond, c'est un peu différent que de voir un film...
Kieslowski, par exemple.
Kieslowski, par exemple, absolument. ou un Strabuillet. Ou là, c'est plutôt des émotions presque intellectuelles. Mais ça m'intéresse aussi. Hein, si on peut parler d'émotions intellectuelles, disons. Mais voilà, là, les émotions, je souhaitais qu'on les vive, qu'il y ait un peu d'humour, un peu de tristesse. J'espère qu'il y a un peu d'humour aussi dans cette histoire. Pas autant que j'aurais souhaité en mettre, mais...
En même temps, vu le sujet... Oui. On comprend que c'est difficile d'en mettre.
C'est difficile d'en mettre. Oui, c'était un sujet de discussion avec moi, avec le chef opérateur Greg Peda, qui est un extraordinaire chef opérateur. Si on parle de ces questions de mise en scène, il a eu des idées vraiment formidables. Parce que j'avais tout prévu d'avance avec un storyboard. Ce que je fais toujours, je pense qu'il faut être le plus préparé possible pour faire un film. Parce que ça permet de mieux improviser, en fait. Plus on est prêt, plus on est libre d'être ouvert aux autres. Si on est un peu inquiet parce qu'on n'est pas prêt, on se préoccupe de où est-ce qu'on met la caméra, des questions qui sont sans intérêt, on perd du temps. Donc, avec quelqu'un comme Greg Peda, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui était là pendant les répétitions, parce qu'on a répété pendant 2 semaines.
Parce que le tournage a été très rapide.
Oui, rapide, 18 jours. Très, très rapide. Pour un long métrage, 18 jours, c'est peu. C'est très peu. Et c'est pour ça que, sachant, parce que mon budget était tellement petit, le jour de tournage, ça dépend d'un budget, bien sûr. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez vous permettre de faire un film qui est dur.
J'ai lu que vous aviez hypothéqué votre maison pour pouvoir financer.
Exactement, oui, j'ai lu ça. Voilà. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça parce qu'on m'a refusé tous mes précédents projets. Donc, je n'ai même pas demandé de l'argent pour ce projet-là. Je n'ai pas demandé. Mais je n'avais pas beaucoup d'argent. J'avais assez pour faire le tournage, pour tourner des images. C'est ce que la banque m'a proposé. Puis après, je me suis dit, j'aurais des aides. J'aurais au moins des aides à la post-production. Ben non, je ne les ai pas obtenues non plus. Malgré le fait d'avoir convaincu quelqu'un comme Julien Rey, qui est monteur des films de Luc Besson. Il a dit oui aussi pour d'autres raisons. Il travaillait sur Valérian, qui était le film le plus cher de l'histoire du cinéma français, un des plus chers de l'histoire du cinéma mondial. Et ça l'amusait de travailler sur le film le meilleur marché en même temps. Parce qu'il faisait lui-même.
Donc il a un côté philanthrope.
Il a un côté philanthrope. Aussi parce qu'il il fait lui-même des films. Il fait un film où il n'y a pas un centime, juste pas d'argent du tout. Il tourne avec ce qu'il peut.
Ça explique que quand on lit les documents, on voit qu'il y a eu un laps de temps important en fait, par rapport à la date officielle du film.
Oui, exactement.
Et ça sort.
On a tourné il y a déjà en 2015. Mm-hmm. Ça va faire 3 ans et demi. Avec le chef opérateur, là, on s'est demandé à qui on pourrait demander de monter ce film. Mm-hmm. Et, On s'est dit qu'en Suisse, il fallait quelqu'un qui ait de l'expérience dans le thriller, parce que c'est un thriller quand même cette histoire, où il y a du suspense. Et on s'est dit, il faut trouver quelqu'un qui soit en dehors de la Suisse. Et j'avais vu Lucie il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, mais qui a monté Lucie de Besson? J'ai regardé son nom, je ne le connaissais pas. Et je tombe sur Julien Ray. Trouve un Julien Ray sur Internet, une adresse. Je n'étais pas sûr que ce soit lui, j'ai envoyé un mail. Pas de réponse pendant 10 jours. Je me suis dit, bon, je vais commencer à chercher ailleurs. Et puis je reçois juste un SMS qui me dit, c'était 5 heures du soir à peu près, appelez-moi à 8 heures. Appelez-moi à 8 heures. Voilà, appelez-moi à 8 heures. 4 noms.
C'est du morse.
Oui, c'est du morse. J'avais un rendez-vous avec une copine pour un restaurant à 8 heures.
En même temps, s'il est aussi laconique que dans son SMS,
bah oui,
vous ne risquez pas de rater le rendez-vous.
Pas
hein.
De problème. Je l'appelle, on est à table, on se met à table avec cet ami, et ça a duré 10 minutes, quoi. Ben non, ça a duré 1h30. 1h30, la pauvre. Oui, ils n'étaient pas contents dans le restaurant non plus. Ils ne pouvaient pas interrompre. Puis là, je l'ai trop dit. Je pensais que ça. Parce qu'il n'était pas très chaud, finalement. À la fin de la discussion, je vais trop parler. Quoi. Je sais pas. Il m'avait posé plein de questions. J'aurais mieux fait de ne pas répondre à toutes les questions.
D'être évasif.
Et puis il m'a dit oui, j'aurais peut-être fait du. Je sais pas. En tout cas, je sentais que ça ne marcherait pas. Et puis il m'a dit mais bon, envoyez-moi 15 minutes d'image. 15 minutes d'image. Mais on avait tourné pas énormément, mais quand même pas mal. Et puis je ne vais pas trier tout ça encore. Il n'y avait rien de monté, quoi. C'était lui le monteur. Donc il fallait plonger dans les images pour retrouver 15 minutes pour le convaincre. Et j'ai passé 4 jours d'enfer parce qu'il voulait ça assez vite. Parce qu'il m'a dit maintenant j'ai du temps, mais il y a Luc Besson pour lequel j'ai commencé à travailler sur Valérian qui va débarquer, je ne sais pas quand. Ça peut être demain ou ça peut être dans 2 mois. Je ne peux pas avoir le temps de finir. Et alors, j'ai envoyé ça. 15 minutes de rush.
Il est sur Paris ?
Il est sur Paris, oui. Et il m'a dit, oui, ok. C'est ok, on le fait. Bon, super. Suspense, fini. C'était.
Elle travaille avec lui ?
Elle travaille avec lui. Alors, le travail avec lui, il ne voulait pas que je sois là. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein, comme monteur, bon, j'ai fait, pas que j'ai une énorme expérience, j'ai fait 5 courts-métrages. Et j'ai toujours travaillé avec les monteurs, les monteuses souvent. Mais il m'a dit non, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je ne veux pas que tu sois là.
C'est comme l'orgasme.
C'est ça, oui. Voilà. mais bien sûr, tu viens voir ce que je fais et puis on en discute. Mmh. Alors, je suis allé à Paris toutes les 3 semaines. Après. Mais c'était très bien finalement parce que d'être là à côté de lui, à attendre, c'est infernal. Ça ne sert à rien. Donc il a travaillé à son rythme, et il travaillait assez vite, hein, parce qu'il faisait pas que du montage, il mettait de la musique, il faisait des effets spéciaux. Mm. Donc tout était un peu, c'était une sorte de grosse maquette, mais qui m'a permis de présenter cette maquette à des festivals déjà.
Assez dans bien. La Californie.
En Californie, exactement.
À La Jolla.
À La Jolla, oui, j'ai bien regardé, merci. Mm-hmm. Oui, absolument.
Vous avez été primé.
J'ai été primé 2 fois, dans 2 festivals qui sont... des festivals jumeaux, je crois.
Ah bon ?
Les deux sont là. Alors là. Mais ça, c'est une erreur, en fait.
De l'avoir présenté
dans le festival. Erreur de stratégie, oui. Mmh. Parce que ça m'a...
Avant la sortie, c'est ça ?
Ça m'a empêché de présenter mon film dans les grands festivals.
Ah !
Oui, parce qu'ils veulent l'exclusivité. Mmh. Et quand j'étais tellement content de ce montage, parce qu'il a fait un travail génial, je trouve. Mmh. Hein. Pas pour... Juste pour son travail, je ne parle pas du film. Mais le montage... Voilà, j'étais vraiment extrêmement content de ce montage. Et le film paraissait assez terminé, alors qu'il n'était ni étalonné. Il avait fait une sorte d'étalonnage brut, comme ça. Donc il paraissait assez fini, alors qu'il ne l'était pas, en fait. Et ça m'a permis de l'envoyer à des festivals. Mais je l'ai envoyé à Sundance, à plein de festivals, parce que j'avais envie d'avoir du feedback. Et puis je me suis dit, bon, j'avais une intuition que... Il faut éviter les petits festivals si on veut aller dans les grands. Mais je me suis dit, bon, au pire, s'ils me prennent, je peux toujours dire ce qui était vrai. Il n'est pas fini, quoi. Mm-hmm. Mais sauf que je n'ai pas compté sur des festivals. J'aurais mieux fait mieux lire ce que c'était comme festival aux États-Unis. C'est qu'il y a des festivals qui n'ont pas de public. En fait. C'est un panel de réalisateurs qui voient des films, qui décident de donner des prix à des films sans qu'il y ait vraiment de festival.
Et de festivalier.
Oui, exactement, festivalier. Donc j'ai eu assez vite ces prix, mais ça a un peu tué le circuit des festivals. Quoi. C'était une erreur.
On apprend, sur le métier.
Exactement. Sur ce film, j'ai appris plein de trucs, parce que j'ai fait pas mal de choses moi-même.
Oui, justement, par rapport à l'écriture et par rapport après à la direction d'acteur.
Oui.
Vous parliez justement d'un séminaire avec Focal.
Oui.
Pour la direction d'acteur.
Alors, je n'ai pas vraiment participé à ce... On m'a suggéré de... Je travaillais sur le scénario. J'ai une telle niaque, j'ai tellement envie de faire ce film que ça s'est passé au moment où j'étais en train d'écrire le scénario. Puis je l'ai écrit assez vite, en 6 mois. Ce qui n'arrive jamais. Enfin, ça me prend plus de temps que ça. Et là, on m'avait suggéré de participer à ça, ça m'intéressait. Je ne connaissais pas le réalisateur français, c'était un Belge, comment il s'appelait, je ne me souviens plus, qui faisait ça. Mais on m'a suggéré de venir pendant une journée, ce que j'ai fait. Et j'ai vu un peu comme ça. C'était pas mal, c'était intéressant. C'est là que j'ai vu
Damien,
qui n'était pas là en tant qu'acteur, il était là en tant que réalisateur, parce qu'il travaille sur ses propres films aussi. Et puis, c'était assez luxueux parce qu'ils invitaient des acteurs. Les réalisateurs, ils avaient le budget pour faire venir des acteurs qui jouaient le jeu d'être dirigés pour des scénettes un peu artificielles, comme ça, de projets sur lesquels travaillaient ces réalisateurs-là. Et lui était là pour son propre projet, mais un acteur n'est pas venu, c'est désisté, il n'a pas pu venir, je ne sais pas. Et lui a suggéré de le remplacer. Et là, c'est là que j'ai vu qu'il avait un naturel assez incroyable. Il est bel homme, voilà, comme ça, de l'assurance. C'était bien, oui. Donc, lui, je...
Les pièces se mettaient en place, voilà, petit à petit, comme ça.
Ouais, exactement. Puis j'ai un peu regardé ce qu'il a fait, et puis là, il a travaillé dans des longs retraits. Il a déjà de l'expérience. Voilà. Donc, j'ai vu ses extraits, des films dans lesquels il apparaît. Donc lui, c'est ça qui m'a convaincu. Lui, je me suis dit, je le prends. Mais l'actrice, c'était plus compliqué. Donc, j'ai fait un peu vite en vous expliquant comment ça s'est passé avec Jennifer, mais il y avait pas mal d'actrices que j'ai rencontrées. Ça a duré un assez long moment sur cette étape du casting, parce que je me suis trompé d'actrice sur certains des films précédents. Là, j'avais appris aussi à faire attention. J'avais été très attiré par une actrice pour un de mes courts-métrages qui était très charmante dans la vie, mais elle était nulle. Et je viens d'intuition qu'elle n'était pas bonne avant même de la connaître, avec cette petite scénette qu'elle faisait avec sa coloc sur son répondeur. Je trouvais la coloc mieux qu'elle. Elle jouait faux, c'était faux. Et j'ai eu la prétention de me dire « Oh ben ça fait rien, même si elle joue faux, je vais moi pouvoir la diriger pour qu'elle soit bien. » Ah là là, c'est naïf ça, ouais, complètement naïf.
Bon, en même temps, la naïveté fait partie de l'art.
Oui, absolument. Mais disons, j'ai essayé, mais sans savoir diriger à ce moment-là. Ça s'apprend aussi, quoi. Ouais.
Mais le fait d'avoir été primé quand même si ça reste des festivals sans festivalier, est-ce que ça vous a boosté, pour parler un petit peu couramment, par rapport à la suite, à un autre long métrage?
Ah oui, ah ben bien sûr, oui, ça c'est vrai, bien sûr. Ça c'est l'aspect positif. Hein.
C'est un stimulus.
C'est un stimulus, oui, bien sûr, d'avoir une reconnaissance. Parce qu'on m'a dit non à beaucoup de projets. Mes courts-métrages en Suisse, ont été assez peu vus parce que je les ai envoyés à des festivals suisses. Et puis, finalement, ils n'ont pas été pris nulle part, ni à Locarno. Sauf un tout vieux, c'est amusant d'ailleurs, un tout vieux qui était montré à Soleure il y a vraiment très longtemps. Et puis l'année dernière, en 2018, c'est Clermont-Ferrand, qui est quand même un des meilleurs festivals au monde de courts-métrages, nous contacte par l'intermédiaire de Swiss Film pour me dire « On veut votre film, celui-là, que j'ai fait il y a très longtemps ». pour représenter la Suisse. On fait une rétrospective suisse. Et je l'avais envoyé à l'époque à Clermont-Ferrand. Aussi, ils avaient refusé tous mes films. Donc en 2018, les choses étaient pas mal. Il y a eu un festival aux États-Unis qui a pris le long métrage, L'Instant Infini. Et Clermont-Ferrand. Enfin, il y a eu des petites choses comme ça qui se sont passées.
Donc, les goûts changent. Hein,
des fois, il faut beaucoup de patience. Hein. Dans le cinéma, il faut beaucoup de patience.
Et sinon, on sait que vous êtes connu à Genève comme plasticien. On peut en parler.
Oui, bien sûr qu'on peut en parler. Oui.
À la douane de Bardonnay, par exemple.
Ah, bravo, absolument, vous êtes bien informé, bravo, je vous félicite. Oui, la douane de Bardonnay, il y a une anecdote assez drôle entre le cinéma et l'art, parce que j'étais plasticien. J'ai vécu de mon travail de plasticien pendant 10 ans, à peu près. J'ai vécu à New York, j'ai un peu exposé assez dans le monde, pas partout, mais disons, pour vivre de mon travail. Je gagnais des bourses aussi, c'était bien. Sauf qu'à un moment donné, le milieu de l'art m'a un peu fatigué.
La mentalité
Le milieu de l'art, oui, la mentalité de ces gens qui vous utilisent. Quand vous êtes artiste, si vous êtes marchand d'art, c'est une bonne position dans le milieu de l'art. Mais pas d'être artiste, parce qu'on vous jette, on vous utilise. Quoi. J'ai trouvé, moi, c'était mon expérience. À New York, j'étais bien placé, parce que j'étais vraiment dans le milieu de l'art. Je le connaissais bien. Et puis l'anecdote avec le Bardonnay, c'est que j'étais là plasticien, mais je commençais déjà à faire des films. Hein. Et là, c'était mon deuxième court-métrage que je voulais financer. Et j'ai demandé à l'Office fédéral de la culture, qui me donne de l'argent pour le cinéma, s'ils étaient d'accord de me donner de l'argent pour un des films. Et au même moment, j'étais en tant qu'artiste plasticien. On m'a demandé de participer à un concours. Ça, c'est l'Office fédéral des constructions, parce que les douanes, ça dépend de l'Office fédéral des constructions. Et quand ils font cette douane de Bardonnay, à l'époque, ils donnent un pourcentage à une œuvre d'art. Et ça représentait beaucoup d'argent, hein, puisque c'était assez cher, cette douane. Et donc, j'ai suggéré... on était 20, je crois, à être 20 artistes suisses à être... convoqué, hein, c'était vraiment sur concours.
Ah, sur concours.
Oui, sur concours de faire des propositions, une vingtaine, je crois. Et puis, la même semaine, c'était très drôle, je reçois la réponse de l'Office fédéral de la culture qui me dit non pour mon film, et je reçois l'Office fédéral des constructions, je reçois la réponse positive, on me dit, vous avez gagné, c'est vous qui allez faire l'intervention dans la douane de Bardonnay. Génial, là j'étais très bien payé et j'ai mis tout l'argent dans le film. C'est comme ça que j'ai pu faire mon film.
C'est fou hein, quand même, comment ça s'emboîte, c'est impressionnant.
C'est incroyable.
Voilà.
Ouais.
Il y a des hasards. Et avant d'être plasticien, qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, le plasticien, je suis devenu assez vite plasticien. J'ai fait les beaux-arts d'abord à Lausanne. On m'a mis à la porte après une année, c'était l'ancienne école. Ouais. On était quatre on contestait, mais très poliment. Hein. On trouvait que c'était très académique. C'était avant Pierre Keller. Mm-hmm. Et on trouvait que c'était très académique. Et puis on avait fait un grand panneau. C'était à la mode. On appelait ça le Dazibao, je ne sais pas si ça me dit quelque chose, en Chine populaire. Mm-hmm. Ils faisaient croire qu'il y avait une démocratie, que les gens pouvaient exprimer leurs impressions sur des panneaux. Puis on avait fait ça, on avait écrit tout ce qu'on écrivait, tout ce qu'on pensait de l'école. Puis voilà. On nous a mis à la porte tous les quatre.
C'est pire que la Chine.
Voilà, exactement. C'était comme la Chine. On a découvert nos dépens. Et puis, alors le plus drôle, c'est qu'il y en a un qui, après un avocat, qui a réussi à être réintégré, parce que lui, il voulait vraiment rester là, parce qu'à l'époque, il y avait Bernard Yecker, qui était prof de graphisme, qui était vraiment bien. Il a réussi à être réintégré. C'est lui qui est devenu le responsable de la section graphisme. François Rappeau, il est encore là, je crois, de la section graphisme de l'ÉCAL.
Il a bien fait, alors.
Il a bien fait, oui. Et moi, je suis parti pour Genève, parce que j'étais à Lausanne, c'est pas vrai, j'habitais à Lausanne. Et je suis venu faire les beaux-arts ici. Et puis là, finalement, ça s'est bien passé. J'ai gagné le prix, du meilleur élève, le prix Neumann, je crois que ça s'appelait. Et ensuite, je suis allé tout de suite à New York faire des études dans une école Je voulais aller à une école de cinéma, en fait.
Columbia ?
Non, je voulais aller à NYU. J'étais accepté à NYU, postgraduate. Mais malheureusement, c'était trop cher. Je n'ai pas pu me payer cette école-là, quoi. Peut-être que j'aurais pu avoir d'autres bourses. Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé d'autres bourses. J'ai appris plus tard, j'aurais pu exister des bourses. Parce qu'il n'y avait pas d'école de cinéma en Suisse à ce moment-là. Et à cause de ça, il y avait des bourses pour aller étudier à l'étranger. Et donc, j'ai fait une autre école qui dépend du Whitney Museum, un musée d'art contemporain. Et là, j'ai plutôt rencontré des gens du milieu de l'art, mais j'ai quand même fait un film, là. J'ai quand même déjà fait j'ai fait un premier film qui est très ennuyeux, qui dure une heure, qui s'appelle Blinds. Mais que je défends encore. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la bande-annonce du film, qui dure 3 minutes, ça c'est parfait. Mais une heure, ça c'est beaucoup trop. Mais c'était une première expérience qui était vraiment, que j'ai beaucoup aimée. Hein. Avec très très peu de moyens, parce que je l'ai fait moi-même, avec mon argent aussi.
C'était un travail d'études ?
Non, je fais ça pour moi. Alors je fais ça dans le cadre de l'école, hein, c'est vrai. Mais je faisais d'autres choses dans le cadre de l'école. Aussi, plus plastique, plus des sculptures, je faisais des sculptures aussi. Et alors, voilà, j'ai quand même pu négocier aussi pour avoir des points, je ne sais plus comment ça avait servi, qui me permettaient d'avoir mon diplôme. Mais c'était surtout des sculptures que j'avais faites. Là, c'était un film. Mais quand je suis rentré en Suisse, on s'est souvenu de moi, parce que j'avais une bourse là, pour rester aux États-Unis pour une année. Quand je suis rentré en Suisse, on s'est souvenu de moi plutôt comme plasticien. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des expos. Ça marchait bien, ça marchait assez bien.
Et à Paris aussi.
À Paris, j'ai exposé aussi, oui. Mmh. Oui. Mais en Allemagne, en Italie, en France, aux États-Unis, à New York, j'ai eu une exposition, en Angleterre. Donc c'était bien, ça marchait bien. Et puis je suis retourné vivre à New York, là en tant que plasticien. Puis c'est là que ça n'allait pas, quoi.
Est-ce que vous avez de la famille aux États-Unis,
vu votre patron? Ah oui, j'ai de la famille aux États-Unis, absolument. Je dis non. Pas à New York, mais aux États-Unis, oui. Même la plus grande partie de ma famille est soit au Pérou, soit aux États-Unis.
Parce que Douglas Bear, ça vient de...
C'est anglais, en fait. Ma mère était anglaise. Ouais. Mais ma mère a quitté l'Angleterre quand elle avait 25 ans. Pour le Venezuela.
Ah.
Ouais. Elle avait marre de la pluie, disait-elle. Elle s'est engagée à la Shell, au Venezuela, à Caracas, où elle a rencontré mon père à Caracas. Elle s'est mariée, ils se sont mariés à Caracas.
Et votre père était...
Lui, il était suisse allemand. Ah. Ouais.
Et vous êtes allé en Argentine, il me semble.
Oui, on n'avait que l'Argentine, absolument, oui. À Buenos Aires.
Donc vous parlez couramment.
Je suis né à Alger, moi.
Et pourquoi Alger ?
Parce que Alger, mon père, à ce moment-là, était employé par... je crois que ce n'était pas la Shell, mais il était employé pour le même travail qu'il faisait de prospecter, de chercher du pétrole. Lui, il cherchait du
dans
pétrole
le Sahara.
Dans le Sahara. Il était dans le Sahara.
Donc vous êtes né à Alger, mais votre père était plutôt dans le Sahara.
Exactement. Oui. Avec ma mère, on était mes deux frères à Alger. Moi, je suis né donc à un moment où il y avait des bombes. C'était
le début de
la guerre. C'était pas encore la guerre, mais c'était
53.
Moi, je suis né en 55, mais ça a commencé en 53. Absolument. Les premières bombes, 53.
Sur les terrasses d'Alger.
Sur les terrasses. Donc là, exactement. Mais on baladait, quoi. Le Milk Bar, je suis retourné au Milk Bar il y a 3-4 ans là, pour revoir l'Algérie. Je n'ai pas de souvenirs, sauf d'une piscine qui était en train d'être refaite. Mais le reste, non. Donc, je suis né à un moment où c'était très dangereux pour nous. Pour les Européens, il y avait des bombes qui explosaient partout. Quoi.
Et vous avez quitté l'Algérie à quelle époque ?
58, pour l'Argentine.
Alors, avec tous ces pays là qu'on mentionne, ben, l'Algérie, ça bouge beaucoup. Il y a des émeutes depuis une semaine,
oui,
hein, évidemment.
Ça bouge,
hein. Puisque les Algériens aimeraient que Bouteflika ne se présente pas un cinquième mandat, d'autant plus qu'il est ici à l'hôpital. On pense au Venezuela, qui était encore tranquille il y a 15 ans.
Oui.
Là, les jeunes ne peuvent même pas manifester leur opinion dans la rue sans risquer d'être fusillés.
Oui.
On voit que le populisme ressurgit, bien sûr, en Europe, mais... récemment au Brésil, ça titille un peu l'Argentine. On sait que la politique par rapport aux artistes en Argentine, elle est très difficile au niveau du financement, justement parce qu'il y a un gouvernement de droite. Ça vous interpelle, ça vous suscite quelle réflexion ?
Bien sûr, oui. Bien sûr, ça m'interpelle. Moi, je suis un grand avide de nouvelles. Je lis de nouvelles, je lis beaucoup d'informations. Le matin, c'est la première chose que je fais, c'est lire ce qui se passe dans le monde. Et c'est assez terrible ce qui se passe dans le monde, c'est tous les jours. Et je pense que ça risque de plutôt empirer. Mon prochain projet, il a à voir avec l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui protestent dans la rue. Ça va se passer dans un futur proche où les gens protestent parce qu'ils ont perdu leur travail. Et il y a des millions de gens qui vont perdre très vite leur travail, beaucoup plus vite qu'ils ne l'imaginent. Les voitures.
En étant supplantés par la technologie.
Supplantés par la technologie. Le plus rapidement évident qui va se passer, c'est les voitures autonomes. Dès que. Parce que Uber n'attend que ça. Ils ont déjà préacheté 25 000 Volvo électriques autonomes. Parce que au lieu de payer 70% de la course à un chauffeur, ce sera tout bénéf pour eux, quoi. 100% bénéf pour eux. Donc ils n'auront pas d'état d'âme. Hein. Ils vont utiliser ces voitures tout de suite. Donc, il y aura des millions de gens, des chauffeurs de taxi, de camions, de voitures, de trains, etc. qui vont. Ça, c'est les premiers, peut-être les plus rapidement, qui vont être infectés. Donc, bien sûr que les questions politiques m'intéressent. Et c'est un peu le sujet de ce nouveau projet, donc, pas seulement l'intelligence artificielle, mais plutôt l'exclusion. On va se sentir exclu.
Sous forme de documentaire
Comment?
Sous forme de documentaire.
Non, c'est une fiction.
Une fiction.
C'est une fiction, de nouveau avec un personnage féminin, qui, elle, a une quête. On peut retrouver, c'est un peu la même quête que dans mon instant infini. C'est dans une quête d'amour, parce que son père l'a rejetée à un moment particulier de sa vie, autour de 6 ans. Tout à coup, elle se sentait aimée de lui, et tout à coup, et lui, il a toujours nié ça. Donc elle se retrouve à vouloir savoir pourquoi. Sa vie a vraiment été très affectée par ce rejet. Sa vie amoureuse, elle tombe amoureuse de mecs beaucoup plus âgés qu'elle.
La recherche du père.
La recherche du père, qui sont toujours pas disponible. Elle se retrouve toujours dans le même schéma, elle a un boulot qu'elle n'aime pas, bon, sa vie est vraiment détruite. Et puis, quand son père, ça commence comme ça, le début de l'histoire, c'est que son père, qu'elle n'a pas vu depuis 6 ans, pour des raisons liées à tout ça, elle découvre qu'il va mourir. Et ça, c'est la catastrophe, parce qu'elle va, elle accepte de le revoir, mais seulement pour être au moment où elle est à peu près sûre de pouvoir se payer une copie, parce que c'est dans un futur proche, une copie exacte de ce père. C'est un THC, Total Human Copy, qu'une société fabrique. Il peut fabriquer non seulement des copies du corps, mais de l'esprit. Et l'idée, c'est qu'elle hack son père, parce qu'ils sont augmentés, ces copies. Pour les raisons de sécurité, ils sont augmentés. Mais en fait, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ils ne sont pas encore légaux, ils n'ont pas encore de licence, parce que justement, ça se passe à un moment où tout le monde commence à contester l'existence de tous ces produits qui ont à voir avec l'intelligence artificielle, de recréer des humains, des clones, etc. Ça commence à faire très très peur.
Ben, le Japon a déjà pas mal anticipé là-dedans.
Ben oui, bien sûr.
Ne serait-ce que pour les aidants, pour les personnes en besoin, mais aussi pour les prostituées.
Ben oui, alors le sexe, c'est sûr que c'est
ils ont des mannequins, par exemple, qui parlent, qui...
Absolument, oui, oui. La sexualité, c'est un des moteurs pour une industrie, pour que cette industrie aille encore plus vite. Donc là, elle va se payer la copie de son père, qui refuse d'admettre quoi que ce soit. Elle dit, mais non, je l'ai aimé toutes les deux parce qu'elle a une sœur. Je l'ai aimé la même façon toutes les deux. Et juste avant qu'il ne meure, il accepte, lui, le père, d'avoir cette copie de lui qui est faite. Donc, il va le hacker.
Puis il y a toute une question derrière de déontologie,
d'éthique. Oui, d'éthique. Parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Il y a des questions politiques, de qu'est-ce qui va se passer. On sent que les groupes s'excluent encore plus que ce n'est déjà le cas maintenant. S'il y a des montées des nationalismes, c'est parce qu'on a peur. On a peur des autres, de plus en plus.
La méconnaissance aussi.
Oui, absolument. Donc, Donc tout ça c'est un peu lié à cette histoire, mais qui reste une histoire d'abord personnelle, mais qui a des implications plus larges. Elle traverse la ville, ça se passe à New York, hein. C'est un projet américain en fait. Hein.
Une ville que vous connaissez bien du
coup. Oui, que je connais bien, oui.
Et là, vous espérez quand même obtenir, suite à ce premier long métrage, un soutien peut-être ?
Là, je vise très haut. C'est un truc hollywoodien.
Ah, oui. Oh, mais il fait peur, j'ai cru que c'était Trump.
Non, hollywoodien. Alors, est-ce que ça va marcher ? J'en sais rien, si on ne rêve pas. L'avantage du cinéma, c'est que ça...
Le rêve nourrit aussi l'inspiration.
Mais bien sûr.
Par contre, vous allez repartir à New York.
Oui.
Vous y êtes allé plusieurs années.
Oui.
Ce qui se passe actuellement avec le nouveau gouvernement, quel est votre sentiment ? New York, comme on disait hors micro avec la Californie, ce sont des enclaves à part. Ils sont toujours progressistes, ils sont toujours open-minded.
Ils n'aiment pas Trump,
ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr.
Ils n'aiment pas Trump du tout. Non, mais je suis assez confiant que d'ici que mon film se fasse... Et se fera, ça j'en suis sûr.
Il aurait été destitué pour incapacité intellectuelle.
Il sera en tôle.
Ah, moi je pensais, parce qu'il cherche à savoir s'il avait toutes les capacités cognitives pour être...
Ah, vous voulez dire mon personnage dans
non, l'histoire. Non, moi je parle de Trump.
Ah non, Trump, je pense qu'il va être en prison.
Ah bon ?
Oui, il y a tellement de casseroles qui vont lui tomber dessus.
Oui, mais il a plein de contacts aussi.
Oui, mais ils vont tous tourner leur veste dès que tout sera perdu.
Donc vous serez en train de créer en toute quiétude.
En toute quiétude, oui.
Parce que là, ça va mal pour les artistes, non ?
Oui, ça va pas très bien. Ça va pas très bien. Ça dépend où vous travaillez. Si pour le cinéma, c'est un peu plus compliqué que pour la télévision. Maintenant, beaucoup de bons écrivains, je pense que les meilleures choses se font maintenant plus à la télévision qu'au cinéma. Moi, je suis un peu déçu par les films que je vois au cinéma. Par contre, les séries, je les trouve extraordinaires.
Il semblerait que, par exemple, les meilleurs scénaristes travaillent pour Netflix.
Voilà. Alors, Netflix, c'est un aspirateur.
Ils ont phagocyté.
Ils phagocytent tout. Y compris les prix dans les festivals. S'ils les montrent maintenant, certains de leurs films dans les salles, c'est uniquement pour pouvoir participer à des festivals. Parce que Cannes n'a pas voulu d'eux. Puisqu'ils n'ont jamais montré de film dans les salles. Et là, Roma, qui est sorti dans les salles, c'est uniquement pour pouvoir dire « Mais oui, regardez, on montre des films dans les salles, maintenant vous nous donnez les prix. » Alors, je ne sais pas si pour Roma, je l'aurais donné, mais ils font quand même des bonnes choses. Et ils font des choses un peu partout, même des petits films indépendants,
C'est tentaculaire, hein.
Comment ?
Ils sont tentaculaires.
Oui, c'est très... Les enterrons l'argent, c'est ça. Là, donc, moi, j'ai envie de raconter des histoires. La télévision, il y a quelques années, j'aurais peut-être eu un discours différent. Mais aujourd'hui, je pense que peu importe le support, si ça me permet de raconter mes histoires, cette nouvelle histoire, moi, je tiens beaucoup. Je pense que c'est mon meilleur scénario.
Vous êtes à l'écriture ?
Oui, j'ai bien avancé. Si vous regardez ici...
Ah, voilà, tous les post-it derrière vous, qu'on voit sur la photo.
Ça, c'est mon nouveau scénario. Ça m'a pris une année et demie pour mettre ces petites fiches.
Ah, c'est bien qu'ils figurent sur la photo, alors.
Une année et demie de travail. Ouais. Et j'ai commencé à écrire en janvier. Maintenant, j'écris à peu près une page par jour. Donc, j'ai écrit 52 pages. C'est un 53e aujourd'hui. J'essaie de maintenir... Avec la sortie du film, c'est un peu plus... je ralentis un tout petit peu. Mais j'essaie de tenir... Maintenant, je sais où je vais. Ça, c'est l'avantage des petites cartes. Là. Ça, c'est le gros travail. Le reste, c'est assez facile.
C'est un peu désherbage avant de planter...
C'est
voilà.
Le gros désherbage. C'est vraiment plutôt les grands jalons. C'est les piliers du pont que je suis en train de... Les piliers sont là. Il faut dérouler le tapis du pont. C'est ça. C'est pas juste. C'est difficile d'écrire un scénario. Hein. D'écrire un bon scénario, c'est encore plus difficile. C'est Spielberg qui dit ça. Je crois faire un film, c'est déjà un miracle, quel qu'il soit. Hein. Faire un bon film, ça, c'est vraiment un super miracle.
Ben, on vous souhaite tout le meilleur. Je vous ai beaucoup fait parler.
Oui.
Merci, Douglas Beer.
Merci d'avoir été si bien informé sur ce que je fais.
C'est le métier.
Oui.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Alors, ça, c'est tonique. J'ai un peu regardé, est-ce que c'est pas... Pardon.